Alors Jackie, ça va, elle t'a pas trop embêté toute la semaine pour savoir...
Ça va, je suis bien.
Dave.
C'est ça. Ah ouais, mais ça, besoin de lecteur. Juste pour, tu l'avais déjà fait la semaine dernière. Je ne comprends pas, les gens ils disent ça.
Mais qu'est-ce que tu veux?
C'est bien clair et net.
Mais oui, c'était clair et net pourtant. Mais bon, allez, c'est pas très grave.
Bon, c'est bizarre.
À quoi le Seyd? Dave. Oh.
Ah
ben. Il y a des vrais problèmes dans la vie. Donc les amis, on se retrouve pour notre étude du livre de Bereshit, deuxième épisode, après avoir expliqué de, en long, en large et en travers le premier verset de la Torah. Il n'a plus de secret pour nous. Je vais résumer cela en une phrase. Bereshit bara Elohim et Hashamaim ve'et Haaretz. Et on a expliqué cela en disant, certainement ça ne veut pas dire au commencement, ça veut dire dans l'objectif de Réchit, soit le peuple juif, soit la Torah, Dieu a créé le monde. Pour ce faire, il l'a fait de la place. Il l'a sorti de lui pour faire de la place. On a dit à Shamaïm, c'est quoi ce qu'il a créé? Eh bien, c'est une dimension d'unité des valeurs. Shamaïm, là, Haaretz, la terre d'Israël.
Mais Shamaïm, il est où dans son Shamaïm, vous avez dit.
Shamaïm, nos sages nous ont dit, c'est la conjonction de deux mots, esh ve maïm. Tu vas me dire, mais il n'y a pas marqué le aleph. Où est le aleph? Et ça, c'est ce qu'on appelle une dracha. La dracha n'est pas obligée d'être à 100%. Mais on a compris l'idée. De la même façon que le feu et l'eau ne peuvent pas coexister, sauf dans une réalité où il y a l'unité parfaite, eh bien, c'est ça que représente Shamaïm. D'accord? Yofi, donc on est bon, on peut y aller. Maintenant qu'on a récapitulé la semaine dernière, franchement on aurait pu faire le cours en 10 minutes, hein, c'est pas la peine de prendre une heure. Maintenant on peut arriver dans le deuxième verset de la Torah. Alors ceux qui ont un Chumash, vous pouvez le prendre. Et le cours maintenant, c'est le résumé, Et le cours il est Leilu Nishmat Yaakov Ben Elazar. Donc...
Je ne sais pas comment c'est.
Oui, je ne me rappelle plus non plus. Leilu Nishmat Anne Myriam.
Oui, je voudrais bien que tu
fasses
ça.
Leilu Nishmat Anne.
Le bourdier, il
saura. Oui, je pense qu'il saura. Je pense qu'il saura. Donc, on peut rentrer maintenant dans notre second verset. Alors, là aussi, on le connaît pas mal. Ve'aretz haïta tohu vavohu ve'choshech al pene teom ve'ruach Elohim merachefet al pene amay. Et la terre était tohu bohu.
L'air ou Eretz?
Non, mais de toute façon, c'est ni ça, ni ça, ni ça. C'est-à-dire, venez, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. On a plein de problèmes dans ce verset. Venez, on commence par dire quel est le problème si on n'a pas été au cours de la semaine dernière. C'est-à-dire, si on continue à penser que Bereshit, c'est au commencement, alors il y a un problème, parce que il y a un grand principe dans le Tanakh. Ce principe est le suivant. Lorsqu'on parle au passé, dans l'hébreu du Tanakh, on marque d'abord le verbe et après le sujet. C'est comme ça qu'on forme le passé. Si on marque le sujet et après le verbe, comme on dirait nous aujourd'hui en hébreu moderne, ce n'est pas du passé, c'est du passé antérieur. Ok ? Ce qui veut dire que ça décrit un événement qui s'est passé avant ce qu'on t'a décrit avant. Si tu me dis que Bereshit, ça veut dire au commencement, ici, le deuxième verset, Ve'aretz haïta, c'est-à-dire passé antérieur, encore avant Bereshit, Ve'aretz haïta tohu vavohu. Comment c'est possible? Mais nous, ça ne nous pose plus aucun problème, puisqu'on sait que Bereshit ne veut pas dire au commencement. Il n'y a dans le premier verset aucun marqueur temporel. Donc on n'a aucun problème de dire Ve'aretz haïta tohu vavohu. Ça peut être avant. Le verset Bereshit, c'est un verset moral. De pourquoi j'ai fait les choses, ben pour le Réchit, j'ai créé le monde. Donc je peux très bien te dire que, eh bien, avant, la terre était tohu vavohu. C'est-à-dire, donc on a compris le Ve'aretz haïta. Mais effectivement, la semaine dernière, on a dit Aretz, c'est Eretz Israël. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici Ve'aretz haïta tohu vavohu. Oui ?
Il veut dire la matière était tohu
vavohu. Alors, est-ce que c'est la matière ? Alors, tu me diras, il n'y avait pas le mot matière qu'on utilise en physique aujourd'hui à l'époque du Tanakh. Mais la semaine dernière, quand on a expliqué le mot Aharetz, on a vu que dans la Torah, Aharetz, de manière, quand c'est juste Aharetz, ça fait référence à la terre d'Israël. Donc la question est de savoir, est-ce qu'ici on parle que de la terre d'Israël ?
On parle de quelque chose qui existait avant.
Avant quoi ? Comment ? Rabotaï, je reviens sur ce que j'ai dit. Pourquoi vous me dites que ça existait avant la création ? Comment vous le savez ? Puisqu'on ne nous a pas parlé du moment de la création. Ah, tu parles du Midrash Rabba, qui dit que Dieu, il a créé des mondes. Mais qui te dit que ça se passe avant cela ? Ce n'est pas marqué.
Non, mais puisque vous nous avez dit que c'était le passé antérieur.
Oui, ça se passe avant quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Ça se passe avant quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Peut-être avant le fait qu'on ne détermine à Aretz en tant qu'Eretz Israël. Mais en tout cas, on ne parle pas ici de l'avant-création, puisqu'on ne parle pas du Nekuda, du point T0 du temps de la création. C'est-à-dire que, rentrez-vous bien dans le crâne, le Big Bang n'est pas évoqué dans la Torah. C'est-à-dire le moment de la création, on n'en parle pas ici. Manitou disait la chose suivante. Pourquoi est-ce que la Torah ne nous a pas expliqué que le monde a été créé ? Du moins, comment ? Tout simplement parce que il a été créé.
Ça n'a rien à voir avec la science.
Donc on a dit la semaine dernière, ça n'a rien à voir avec la science, mais surtout, non, mais lui, avec humour, il disait, parce que on le sait, il est là, point, c'est tout. C'est-à-dire que à partir du moment où tu es là, tu respires, c'est que tu admets l'axiome de base qu'il y a le monde. Donc on s'en fiche de savoir qu'il y a eu un temps T0. Mais ça veut dire. C'est, comme tu dis, quelque chose de très intéressant pour les scientifiques. Pour moi aussi, j'aime beaucoup. Mais chacun a son truc. Ce n'est pas une question toranique. La question des millions d'années ne nous intéresse pas, on l'a dit la semaine dernière. Ok ? Donc maintenant, il va falloir qu'on essaie de comprendre c'est quoi cette histoire de Ve'aretz haïta tohu vavohu. Avant même qu'on essaie de comprendre ce que ça veut dire tohu, bohu, tout ça, le verset sonne positif ou il sonne négatif ?
Négatif.
Il sonne négatif. Alors que le premier, il sonne très positif. Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'et Haaretz. Mi bara et Hashamayim v'et Haaretz. Qui a créé tout ça ? C'est Elohim. Ah ben, ça montre que c'est bien fait. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, ça montre qu'il n'y a rien à rajouter. Si Dieu il fait quelque chose, c'est forcément bien. D'ailleurs, on va même le dire beaucoup plus tard. Vayar Elohim et Kolasher Asa Veine Tov Meod. Donc, a priori, ce que Dieu fait, c'est top. Alors, comment ça se fait, Vaharet Saïta Tov Babou ? Quoi, Dieu, il a mal fait ? Si le premier verset nous parle de perfection, le deuxième, on est très loin. Qu'est-ce qui est mieux ? La perfection ou le fait qu'on doive l'atteindre ?
On doit l'atteindre.
Ouais, c'est pas mieux d'être parfait ?
Non, c'est triste.
Qu'est-ce qui est mieux ? Attends, je te pose une question très très concrète. Est-ce que c'est mieux la maison prête pour Shabbat après le nettoyage ou le moment du nettoyage ?
Ah, bah aussi, c'est
le
moment
du nettoyage. Hein? Ça dépend qui c'est qui nettoie. De Nathan. Mais disons que c'est toi qui nettoie. Hein?
C'est pas mal.
La shlemout, c'est chachouv. La perfection, c'est bien. Mais, nous dit le Rav Kook, dans le livre Orot HaKodesh, qu'il y a deux dimensions dans l'univers du divin. Il y a ce qu'on appelle la shlemout, la perfection, mais il y a également la ishtalmout, le perfectionnement. Et on a besoin autant de l'idée de l'un que de l'idée de l'autre. Et donc il était fondamental qu'après Bereshit bara Elohim et Hashamayim v'et Haaretz, qui montre une perfection sans aucune Ah, il n'y a rien à rajouter. Eh bien, qu'on arrive directement à Ve'aretz Hayta Tohu Vavohu. Il y a, pour arriver à cette perfection, une dimension de perfectionnement éternel. Maintenant, c'est quoi ce perfectionnement? Pourquoi y a-t-il eu brisure? Eh bien, dans le monde de la Kabbalah, on va appeler ça Shevirat HaKelim. En fait, on n'utilise pas des termes trop érudits, on va faire ça simple. Dieu veut mettre sa présence dans un ustensile, on va l'appeler le monde. Seulement Dieu, bah, c'est grand. Et donc, ça casse l'ustensile. L'ustensile n'est pas... Ça casse l'ustensile. L'ustensile n'est pas capable de résister à ça. Prenons un exemple qui s'est passé... Oui ?
Mais un récipient à sa grandeur, à sa mesure, il peut...
Mais il n'y a pas. Il y a un récipient à la mesure de Akadosh Baruch Hu.
Dieu, c'est Dieu qui... Lui, il peut le créer.
Ah, lui, il peut créer. Oui, tu as tout à fait raison. Mais à ce moment-là, ce n'est plus notre monde. On est d'accord. C'est-à-dire, s'il crée quelque chose qui est du domaine du divin, bah alors ça reste dans le divin, ce n'est pas pour nous. Ouais. S'il veut créer un monde dans lequel il va avoir une interaction avec la créature, bah ça y est, c'est déjà terminé. Il n'y a plus de, il y a plus rien. Je vais vous donner un exemple tout bête qui s'est passé il y a 10 minutes, juste avant que j'arrive ici. Alors, je ne me prends pas pour Dieu. Okay, il y a des gens qui se prennent pour Dieu, mais pas moi. Ce n'est qu'un exemple. Et il nous a déjà expliqué le Rambam que « Lo kol davar ba machal » ou matim la nimshal. C'est-à-dire, toute chose dans une parabole n'est pas forcément à l'exacte conformité de l'autre. J'ai raconté une histoire à mes enfants juste avant de venir, et j'ai la fâcheuse tendance, quand je raconte, de bouger les mains. Et j'ai parlé, et j'ai raconté comment Shem Chazai a refusé d'obéir à Dieu et a décidé de descendre quand même ici-bas pour sortir avec la plus belle femme de la terre, Ishtar. Non, non, je ne vais pas vous raconter l'histoire maintenant, ce sera à la fin de la paracha de Bereshit. Quoi qu'il en soit, pour dire qu'elle était la plus belle de toutes, j'ai fait, et j'ai une lampe qui pend. Eh bien, elle ne pend plus. Elle ne pend plus. Je suis rat à Kélim. Je suis rat à Kélim. C'est-à-dire, bon, voilà, vous avez compris l'idée. Donc, Bémet, Bereshit, par Elohim, et Sachem, et Aretz, ok. Mais maintenant, Aretz, ça a été à Tohu Vavohu. Alors, qu'est-ce que c'est que Aretz? On a dit Aretz et Eretz Israël. Nachon. Mais là, c'est Eretz Israël. Mais là, ça veut encore rien dire. Ça ne veut encore rien dire, puisqu'elle n'a pas encore de dimension comme telle. Par contre, elle a sa véritable dimension. Pourquoi la terre d'Israël s'appelle Aretz? Simplement. Alors que les autres terres sont Eretz quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire, le mot Eretz? La terre. Vous vous rappelez ce qu'on a dit comme introduction la semaine dernière, quel était un des grands problèmes quand on étudiait la Torah? C'est qu'on ne sait plus parler l'hébreu. Aretz, ça veut dire quoi? Je veux. Je veux. Et Retz. Erze, on dirait en français, en hébreu moderne. Ok? Donc, Aretz, c'est l'endroit du dévoilement de la volonté. Eh bien, cette volonté d'Akadosh Baruch Hu de se dévoiler dans le monde, elle était Tohu Vavohu Vechosher Alpenei Teom.
Oui.
Qu'est-ce que c'est? Amen, amen. Chez la brio. Il y a des gens sympas dans son immeuble. Hein. Bekitsour. Donc, cette volonté du Créateur, eh bien, elle va passer par beaucoup de prismes et elle était Tohu Vavohu Vechosher Alpenei Teom. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Eh bien, nos sages vont nous expliquer que Tohu, c'est Babylone. Bohu, c'est la Perse. Chosher, c'est la Grèce. Et Teom, c'est Rome. Tohu, Babylone. Le Talmud, nos sages dans le Talmud et dans le Midrash. Tohu Babylone, Bohu Perse, Chosher la Grèce et Teom Rome. Alors qu'est-ce que ça veut dire Tohu? Qu'est-ce que ça veut dire Bohu? C'est pas très clair. Parce que Parce que si tu me dis tohu bohu, ça ne m'aide pas. D'accord ? Alors qu'est-ce qu'il nous dit Rashi ? Il nous dit tohu vavohu, tohu lashon tema veshimamon, shadam tohe ou mishtomem al bo sheba. En français, tohu c'est donc bon, tohe. Je suis perdu. Mazé bohu, lashon rekut vetsadou. C'est-à-dire bohu. On nous a dit, c'est Babylone. Babylone, c'est ce qui nous a perdu. C'est-à-dire quoi, ce qui nous a perdu ? Babylone a détruit le premier Beth Amikdash. Babylone a montré qu'on pouvait se passer du divin. D'ailleurs, avant la Babylone qui va détruire le Beth Amikdash, on a Migdal Bavel, qui veut elle aussi annihiler la relation avec Dieu. Donc, Tohu, le fait qu'on est perdu, c'est Babylone. Bohu, on nous dit, c'est Rekout, c'est la Perse. Quel était la symbolique de l'Empire Perse ? Eh bien, il n'y a qu'à lire. D'où est-ce que nous, on connaît bien l'Empire Perse ? Il y a un bouquin qu'on connaît bien, qui parle bien de ce qui se passait là-bas. Nahon, la Megillat Esther. Eh bien, quand on regarde la Megillat Esther, on voit que la seule chose qui intéresse Achashverosh, c'est l'opulence, c'est la richesse, c'est Rek. Il n'y a rien. Comme disait le Rav Zuckerman, le Rav Zuckerman Zatzal, qui nous a quittés il y a un mois. Mais le Rav Zuckerman, je l'ai entendu nous dire que America, la recherche du rêve américain, c'est quoi le rêve américain ? Le rêve américain, c'est la réussite financière, tout simplement. C'était America. Le seul truc qu'il y a dans la société américaine, c'est la réussite du fric, le pognon. Il n'y a pas de culture américaine, ils ont tout importé de l'Europe. Mais ça ne vient pas d'eux. Ils ont pris ça du vieux continent. C'est-à-dire qu'elle est où l'origine ? Bon, tu me diras, ils n'ont que 300 ans d'histoire. La Rome ? Ben oui, mais ce n'est pas grand-chose, justement. Et est-ce qu'ils ont, en 300 ans, créé une culture à eux, ou ils ont tout simplement pris ce qu'ils avaient vu en Europe et ils l'ont agrandi parce que tout est trop grand là-bas. C'est-à-dire ? Donc, cette dimension de récoute. Rocher, c'est quoi Rocher ? L'obscurité. Et on nous dit que Rocher, c'est la Grèce. La Grèce, c'est l'obscurité. C'est bizarre. C'est-à-dire, s'il y a bien une civilisation qu'on ne peut pas... Voilà, ben la philosophie, l'esthétique, tout ça, c'est, d'où c'est les ténèbres ? Ben, c'est le chocher par rapport à autre chose. C'est-à-dire que la Grèce, évidemment que c'est une grande lumière. Nahon, c'est une grande lumière, mais qui veut faire écran à une autre lumière, celle du dibour. Il y a une différence entre la philosophie et le philosophe et le Talmid Chacham. Les deux sont très intelligents. Seulement, le philosophe aime la sagesse, alors que le Talmid Chacham est sage. Philo, Sophia. Aimer la sagesse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un avec la chose. Le philosophe parle de conceptualisation des choses. Le Talmid Chacham vit la chose. Mais ça a l'air. Donc, il y a la philosophie, mais il y a d'un côté la relation avec Akadosh Baruch. C'est-à-dire, on raconte de manière midrashique, c'est pas vrai historique, quoi. Au niveau historique, c'est pas vrai, mais Zélonora. On nous raconte que lorsque Alexandre le Grand est rentré à Jérusalem, sont morts Haggai, Zecharia et Malachi, les derniers prophètes. Alors ça colle pas, hein. Historiquement ça colle pas, mais Zélom Chané. On veut nous raconter, dans le Midrash, c'est un Midrash, on veut nous raconter que le moment où la Grèce arrive, c'est la fin de la prophétie. Ça marche pas. Ok ? Donc, Rocher, Zeyavat. Vetéom, c'est Rome. Le gouffre sans fin. Pourquoi ? Les Romains, c'est bien, non ? Ça me dit des bonnes choses. Pourquoi c'est un gouffre, les Romains ?
C'est la violence.
C'est la violence. Et On a un grand problème avec les Romains. C'est que, au moins les Perses, ils ont la recherche de l'argent. Mais les Romains, ils n'ont qu'une seule recherche. Le cadre. Le pouvoir et le cadre pour faire tout ce qu'on veut, y compris les choses les plus terribles. Il y a la loi romaine. Mais cette loi romaine, elle n'est pas du tout basée sur la justice. Elle est basée sur la puissance. Vous savez, d'après la loi romaine, je ne peux pas voler la terre de quelqu'un. Je ne peux pas. C'est interdit par la loi. Alors que faire lorsque je suis César et que j'ai une légion, enfin plein de légions beaucoup trop grandes, quand mon légionnaire ne s'est pas fait tuer au combat, au bout de ses 20 années de service, je dois lui donner quelque chose, je ne peux pas le payer. J'ai trop de gens à payer sinon. Donc je le paye en terre. Tout celui qui a vu le cadeau de César, dans Astérix bien évidemment, sait de quoi on parle. Alors, on lui donne un lot de terres, seulement sur cette terre, qui sont dans les pays conquis par Rome. Il y a des gens. Il y a un monsieur X qui habite là-bas. Alors, comment on fait? Eh bien, d'après la loi, si personne n'est venu revendiquer l'endroit pendant 3 ans, c'est à moi. Pour un ancien vétéran de la Légion qui a fait 20 ans dans la Légion, c'est pas très compliqué de museler quelqu'un pendant 3 ans avant qu'il aille voir les autorités. C'est-à-dire, donc, si vous voulez, on a vraiment un cadre ici. Donc, on voit que le dévoilement divin, allez, au moment où on parle, il n'y a ni la Perse, ni la Babylone, ni la Grèce, ni Rome. Mais la Torah vient nous expliquer ce dévoilement divin, ça va passer par plein de chemins qui, a priori, peuvent sembler complètement n'importe quoi. Mais Ruach Elohim merachefet al pene amayim. Mazé Ruach Elohim, dit Rashi, Rucho shel Melech HaMashiach. Il n'est pas encore né le Mashiach. Mais la dimension messianique plane sur tout ça. C'est-à-dire que lorsque Babylone est là-haut, oui, c'est un dévoilement messianique. Ah, c'est pas encore le Mashiach. Mais c'est une étape pour y arriver. Lorsque la Perse, c'est une étape. Babylone nous a montré l'importance de la royauté. La Perse nous a montré l'importance de la richesse. C'est bien d'être riche, c'est important d'avoir de l'abondance ici-bas. La Grèce nous a montré l'importance de la réflexion. Quant à Rome, nous ont montré l'importance de Mishpat, même si eux, ils l'ont très mal utilisé. Donc, tout ça sont des événements qui vont faire avancer l'idéal messianique. C'est-à-dire, il y en a eu plein d'autres dans l'histoire, des événements qui ont fait avancer l'idéal messianique. Un des derniers en date, le communisme. Le communisme était...
C'est une belle idée.
Hein?
C'est une belle idée.
Mais c'est une belle idée, c'est une idée messianique. Bon, ça a pris des tournures n'importe quoi. Mais voilà, il y a plusieurs choses qui font avancer la volonté divine. Mais ça a l'air. Donc, « Veruach Elohim, merachefet al pene amayim » J'ai juste une question. On a jamais entendu parler de la maïm. D'où elle vient, l'eau?
Maïm.
La Torah. Maïm, c'est la Torah. On n'a jamais parlé de la création de l'eau. Ah, ça existait avant. Vous verrez qu'à aucun moment, on va nous dire que Dieu a créé l'eau. À aucun moment.
Parce qu'elle existait.
Parce que comme vous avez dit, Maïm Zatora, Zetora Kadma Laola. Que l'eau en Maïm est la Torah. Nos sages voient dans l'eau la représentation de la Torah. Or, la Torah a précédé le monde. Donc c'est normal qu'on ne me dise pas quand Dieu a créé l'eau, puisque de toute façon, on ne s'occupe pas de cosmogonie. On ne s'occupe pas de savoir comment l'univers s'est mis en place. Ce n'est pas ça qui nous intéresse ici. Mais c'est-à-dire, donc, dans les deux premiers versets de la Torah, nous avons l'idéal de la perfection face à l'idéal du perfectionnement, du développement, les athléas, et on voit que la volonté divine va passer par beaucoup de chemins. Maintenant qu'on a mis les bases, eh ben on peut y aller. La troisième partie du début de Bereshit va maintenant aller du chapitre 3 jusqu'au chapitre du verset 3 jusqu'au verset 31. C'est les 6 jours de la création. Vous savez? Donc nous allons y aller léat pour voir comment c'est marqué tout ça dans la Torah. Je rappelle qu'encore une fois, il ne s'agit pas de nous faire une liste chronologique de la création du monde. Absolument pas. J'ai deux preuves à l'appui. La première, elle est purement technique. Et nous voyons bien qu'est-ce qui est créé quand. Et on se rend bien compte qu'il est impossible, de manière physique, que l'herbe et les arbres soient créés avant le soleil. C'est-à-dire la planète Terre est née après le soleil. Donc si les arbres sont créés le troisième jour, le soleil le quatrième, c'est qu'on a un problème. Deuxièmement, quand on va regarder dans le deuxième chapitre de la Torah, on va nous reparler de la création, mais en changeant l'ordre. Alors que dans le premier chapitre, à Adam, l'homme sera créé en dernier. Dans le deuxième chapitre, il sera le premier à être mentionné. Donc, on voit bien qu'il ne s'agit pas ici de vouloir expliquer l'ordre des choses, du moins pas l'ordre physique, mais peut-être l'ordre moral. Oui ? L'ordre moral. Ok ? Alors, allons-y. Vayomer Elohim. Ah tiens, Dieu parle. Est-ce que c'est la première fois qu'il parle ? Oui ? Nous dit le Talmud, dans la Mishnah, dans le traité de Maseret Avot, le traité de Avot, chapitre 5, Mishnah 1, nous dit « Be'asara ma'amarot nivra ha'olam ». Asara ma'amarot nivra ha'olam, c'est fait meod. D'ailleurs, on va les retrouver donc dans ces 29 versets de la création. Je vous demande, ceux qui ont un livre, si vous voulez suivre avec moi, ceux qui n'ont pas, de compter. Je vais lire très vite. ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור וירא אלוהים את האור כי טוב ויבדל אלוהים בין האור ובין החושך ויקרא אלוהים לאור. Vous devez compter le nombre de fois où il y a marqué ויאמר. לאור יום ולחושך קרא לילה וירא ובוקר יום אחד. ויאמר אלוהים יהי רקיע בתוך המים ויהי מבדיל בין מים למים. ויעש אלוהים את הרקיע ויבדל בין מים אשר מתחת לרקיע ובין המים אשר מעל הרקיע ויהי כן. ויקרא אלוהים לרקיע שמיים וירא ובוקר יום שני. ויאמר אלוהים יקרבו המים מתחת השמים למקום אחד ותראה היבשה ויהי כן ויקרא אלוהים ליבשה ארץ ומקווה המים קרא ימים וירא אלוהים כי טוב ויאמר אלוהים תדשא הארץ דשא עשב מזריע זרע עץ פרי יוצא פרי למינו אשר זרעו בו על הארץ ויהי כן ותוצא הארץ דשא עשב מזריע זרע מינהו ועץ יוצא פרי אשר זרעו בו למינו וירא אלוהים כי טוב ויהי ערב ויהי בוקר יום שלישי ויאמר אלוהים יהי מאורות בערכי השמים להבדיל בין היום ובין הלילה ויהיו לאותות ולמועדים ולימים ושנים ויהיו למאורות בערכי השמים להאיר על הארץ ויהי כן ויעש אלוהים את שני המאורות הגדולים את המאור הגדול לממשלת היום ואת המאור הקטון לממשלת הלילה ואת הכוכבים ויתן אותם אלוהים ברקיע השמים להאיר על הארץ למשול ביום ובלילה להבדיל בין האור ובין החושך וירא אלוהים כי טוב ויהי ערב ויהי בוקר יום רביעי ויאמר אלוהים ישרצו המים שרץ נפש חיה ועוף יעופף על הארץ על פני הרקיע השמיים ויברא אלוהים את התנים הגדולים ואת כל נפש החיה רומסת אשר שרצו המים למיניהם ואת כל עוף כנף למיניהו וירא אלוהים כי טוב ויברך אלוהים ויברך אותם אלוהים לאמור פרו ורבו מילאו את המים ומים והעוף ירב בארץ וירב ויבוקר יום חמישי ויאמר אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה בהמה ורמז וחי תוארת למינו ויהי כן ויעש אלוהים את חיית הארץ למינה ואת בהמה למינה ואת כל רמז האדמה למינה למינהו וירא אלוהים כי טוב ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובהמה ובכל הארץ ובכל הרמז הרומס על הארץ ויברא אלוהים את האדם בצלמו בצלם אלוהים ברא אותו זכר ונקבה ברא אותם ויברך אותם אלוהים ויאמר להם אלוהים פרו ורבו מילאו את הארץ וכבשוה ורדו בדגת הים ובעוף השמיים ובכל חיית הרומסת על הארץ ויאמר אלוהים הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע אשר על פני כל הארץ ואת כל עץ אשר בו בריאת זורע זרע לכם יהיה לאוכלה ולכל חיית הארץ ולעוף השמיים ולכל רומס על הארץ אשר בו נפש חיה את כל ירק עשב לאוכלה ויהי כן וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד ויהי ערב ויהי בוקר ויום השישי Y'en a que 9
29
Comment ça 29 29 versets Je sais pas moi combien de versets J'ai combien de fois il y a marqué Vayomer Vayomer Tu veux qu'on le relise Il y a marqué 9 fois Vayomer, oui c'est juste ah, C'est bizarre On nous a dit Be'asara ma'amarot Oui, le 10 revient très souvent. On dit par 10 paroles, Dieu a créé le monde. Et là, on compte. Il n'y a marqué que 9 fois, Vayomer. 9
paroles.
Alors, nous dit le Talmud, Al-Tidal, Bereshit, Name Ma'ama. Bereshit est aussi un Ma'ama. Bereshit bar Elohim. Alors, pourquoi il n'y a pas marqué Vayomer Elohim, Bereshit? Parce que pour dire Vayomer Elohim, il faut qu'il ait quelqu'un à qui parler. S'il n'y a encore rien du tout, il ne peut pas parler à quelqu'un. Donc le simple fait d'émettre sa volonté, c'est déjà une parole. Ok ? Le monde, la création, l'idée même de création. Quelqu'un, je m'entends avec des guillemets, évidemment. C'est-à-dire. Donc, ok, maintenant on peut arriver à notre premier jour, on revient à notre premier jour, tout ira bien. Pas encore, bah, deux secondes, là on est au premier jour. On y reviendra quand on arrivera au sixième jour. C'est-à-dire, l'homme c'est le sixième jour. C'est-à-dire. Donc, Vayomer Elohim, Yehi, Or. Il a fait. Vayehi, Or. Les deux mots, Yehi, Vayehi, viennent de quel verbe? Yeah, liot, d'accord. Donc ça veut dire que on va traduire ça par, alors en français on dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais yehi, c'est un état d'être, un état d'existence. Va yehi, c'en est un deuxième. D'accord. Le Rav Ashkenazi, Manitou, nous explique une clé pour comprendre ces six jours de création en nous disant que yehi, à chaque fois qu'il y aura marqué « Yehi », ce sont les fois où on crée quelque chose qui a une existence « Baolam », une existence « Kol Yeme Aolam ». Pendant toutes les journées du monde, il est là. Tout n'a pas une existence durant toutes les journées du monde. Pour les animaux, il n'y a pas marqué « Yehi ». Parce qu'il y a eu un moment où il y a eu des animaux et il y a eu un moment où il n'y a pas eu d'animaux. Demandez à n'importe quel scientifique, la vie est apparue sur Terre à un moment lointain, après la construction de la Terre. Et il y a des choses où il y a marqué « Vayehi ». Vayehi, pourquoi est-ce qu'on a besoin du Vav ? Eh bien c'est un autre, une autre existence, c'est Olam Haba. En d'autres termes, là où il y a quelque chose où il y a marqué Yehi X, c'est que ce X-là est présent Kol Yeme Aolam Azeh. Et là où il y a marqué Va Yehi, c'est que ce sont des choses qui sont présentes Kol Yeme Aolam Abba. Donc combien de combinaisons on peut avoir? On peut en avoir quatre. Soit on a et Yehi et Va Yehi, soit on a que Yehi et pas Va Yehi, soit on a que Va Yehi et pas Yehi, soit on n'a rien du tout. Ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire, ben, on trouve de tout. Par exemple, eh bien, si je regarde, alors je vais sauter, je reviendrai hein, évidemment, mais on va y revenir. Mais si par exemple je parle, je ne sais pas moi, le troisième jour, on me dit Vayomer Elohim, Tatche a Aretz Deshe, au verset Yud Aleph, Tatche a Aretz Deshe, que la terre fasse pousser de l'herbe, il n'y a pas marqué Yehi à déchets. Et quand on nous dit la réalisation, on nous dit va tout ça, arrête ce déchet. On ne nous parle pas de va Yehi à déchets. En d'autres termes, par exemple, l'herbe, c'est ni présent tout Yeme à Olam Hazeh, ni non plus dans Olam Haba. Par contre, il y a des choses qui sont là, mais pas là-haut. Arakia. Je sais, pour l'instant, je n'explique pas encore tout ce que c'est, mais juste que vous compreniez l'idée, on nous dit « Yehi Rakia ». Rakia, justement, je n'explique pas encore, mais grossièrement, c'est la séparation dans ce monde. Donc « Yesh », alors entre le ciel et la terre, « Yesh Rakia »,« Yehi ». Mais on ne dit pas « Va Yehi Rakia ». Ok ? Pour ce qui est de notre premier jour de la création, on a dit « Va Yomer Elohim, Yehi O ». Et après, marqué « Vayehi Or ». Donc, ça veut dire que la lumière, c'est quelque chose qui est présent « Kol Yeme Aolam Hazeh » et Kol yeme haolam haba. Est-ce que cette lumière-là, ce sont les photons produits par le soleil? Vadaï shelo. Ben voilà. Il n'est pas encore là, le soleil. Donc il ne s'agit pas des photons. C'est autre chose. Ah, est-ce que c'est la Torah? Je ne pense pas non plus que ce soit la Torah. C'est quelque chose qui est bien au-delà. C'est ce qu'on appelle, encore une fois, pour se la péter, on utilise des mots de Kabbalah, ça, ça montre qu'on est très très érudit. On appelle ça dans la Kabbalah Or Aganouz, qui a été rangé par Dieu, là, pour la ressortir, là, de la vôtre. C'est-à-dire qu'elle est là le premier jour, et puis après, elle n'est plus là. Et elle la ressortira à un moment donné. Or Aganouz. La lumière que Dieu a mis dans un tiroir. Caché. Ganouz, gniza. C'est-à-dire qu'il a mis dans un tiroir scellé pour la ressortir à un moment donné. Bon, sauf que ça ne nous aide pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire. D'accord ? En fait, on essaie de comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Si seulement il y avait un mot dans une langue qui était utilisée par Molière qui pouvait m'aider à comprendre. Or Aganouz.
C'est la Torah ?
La Torah, ce n'est pas un mot que Molière utilisait souvent.
Non.
Est-ce que ça ne me ressemblerait pas à un mot en français? Organos. Peut-être qu'en anglais, c'est plus facile.
Organisation.
Ah, organize. Organiser. C'est de là que vient le mot organiser. Non, c'est même pas une blague. Organiser, ça vient de organos. Oui, messieurs, dames. Eh oui. C'est un mot, vous regarderez dans le dictionnaire, qui vient des pays de l'Est. Pas plus d'informations. Organouz. Organisé. Qu'est-ce que ça veut dire organisé? C'est ce qui met de l'ordre. Nous, mazéa or azé. C'est quoi cette lumière-là? Ce n'est pas les photons. C'est la lumière qui nous permet de voir. Eh oui, bien sûr. Donc on parle ici de l'organisation même de la création. Donc, Vayomer Elohim Yehi Or. Très bien. Vayehi Or. Après, on nous dit Vayar Elohim et Haor. Kitov. Vayavdel Elohim ben Haor ou ben Hacher. Hacher. Hacher de tout à l'heure? De la graisse? Non, Hacher dans le sang. Oui, enfin, mais Hacher, Hacher. Est-ce que Dieu a créé le Hacher? Non, il n'y a pas besoin. Là où il n'y a pas d'or, il y a Shrocher. Donc, ça, c'est la Avdil ben Haor ou ben Shrocher. Yafé Meod, Vaikra Elohim la Or Yom. Est-ce qu'on parle de 24 heures?
Non.
Il l'a appelé jour. Est-ce que c'est 24 heures? Non, parce que ça ne veut pas non plus dire jour. Ça veut dire quoi, Yom? Ça vient de quel mot, Yom? Lui aussi, il vient du mot Liyot. Yom, ça vient de la racine hayo, liyot. Yom veut dire donc un état d'être. Quand on voit ce qui se passe, eh ben, on peut déterminer dans quel état on est. Vayom, vayikra Elohim la or yom, vela chosher kara laila. Mazel laila, zeshlila. C'est là où il n'y a pas. C'est là où je ne peux pas dévoiler quoi que ce soit. C'est donc pour ça qu'il va dire Vayi Erev, Vayi Boker, pas soir et matin. Erev et Boker sont les deux états de la création. Dans chaque jour de la création, il y aura Vayi Erev, Vayi Boker. Maze Erev, Zemilachon, Irbouv, mélanger. C'est quoi le RF dans le langage commun? On dit c'est le soir, la nuit. Alors, avant qu'on invente l'allumage électrique, qu'on invente l'électricité et les allumages de ville, quand il fait nuit, bah, tu ne vois plus rien. Tout est mélangé. Tu ne peux pas déterminer quoi que ce soit, il fait noir. Vayehi boker, le matin. Boker milachon levaker. Pas les visiter.
Oui,
les vaquers, c'est bicoret. Être capable d'analyser. quand j'ai un mévaquer, un texte, c'est pas pour dire qu'il est mauvais. C'est avant, peut-être que je vais dire qu'il est mauvais, mais c'est d'abord pour dire, ouais, je peux analyser la chose. Donc dans chaque état de la création, il y a un état où tout est mélangé, et un état où je peux analyser les choses. Vayerev, vayevoker, yom echad, yafemeod. D'ailleurs, pour aller encore plus loin, eh bien, on comprendra une chose très importante. Ce premier jour de la création va nous servir d'archétype. Il est la base qui va revenir durant les six jours de la création. Il y a donc un schéma en quatre étapes qui revient dans les jours de la création. Projet, réalisation, observation, conclusion. Projet, yéyo. Réalisation, va yéyo. Observation, va yar Elohim et Taor Kitov. Conclusion, va yérev, va yévoker, yom echad. Le schéma en quatre étapes. Ce schéma revient dans chacun des jours de la création. Alors, des fois c'est plus facile à voir, des fois c'est moins facile à voir. Dans le deuxième jour, eh bien, le vayere, vayevoker, le jugement, c'est-à-dire, il arrive que dans le troisième jour, il arrive que dans le quatrième jour, parce que ce qui a commencé à être créé sera terminé là-bas. On va y revenir. Mais de manière générale, ce schéma, eh bien, on peut le retrouver dans tous les jours de la création. Sauf que, et là, ceux qui ont le texte, je vous demande de sauter jusqu'au verset, jusqu'au verset Aleph du chapitre 2. Où on nous dit, c'est un verset que tout le monde connaît, donc ceux qui ne l'ont pas, vous le connaîtrez quand même. On nous dit, Vaychullu ha-shamayim ve-aretz ve-chol tzeva'am, Vaychal Elohim ba-yom ha-shevi, melachto asher asa, Vaychbod ba-yom ha-shevi, mikol melachto asher asa, Vaychvarech Elohim et yom ha-shevi ve-kadesh oto, Kivo Shabbat, mikol melachto asher bara Elohim la-asot. Et on devrait trouver Vayi Erev, Vayi Voker, Yom Hashevi. Et ceux qui ont un Chumash, vous pouvez voir que il n'y a pas marqué Vayi Erev, Vayi Voker. Ce qui veut dire que la conclusion du septième jour n'a pas encore eu lieu. Ce qui veut dire que tant que ce n'est pas marqué dans la Torah, nous sommes toujours dans le septième jour de la création. C'est ça, on y reviendra. Bon, s'il n'y a pas marqué Vayi Erev, Vayi Voker, Yom Hashevi, il y a marqué quoi à la place? Sa vraie Maranane. Oui, c'est ça qu'on dit, non? On dit ça, non? Après le texte, on dit ça. Mais Kitsour, le schéma revient toujours. Alors, on a compris qu'est-ce que c'était cette dimension de Yehi va Yehi. On a compris aussi le schéma en quatre étapes et donc qu'aujourd'hui, on est toujours dans le septième jour. Mais maintenant, j'aimerais quand même qu'on vienne, Tarles, sur les jours de la création. Qu'est-ce qui a été créé et quand et pourquoi ça avant ça? Ok ? Donc le deuxième jour, qu'est-ce qui se passe ? On a compris pour le premier, qu'est-ce qui se passe le deuxième jour ? Eh bien, Rabotai, allons-y, retournons dans notre deuxième jour. Il est. Et verset 20. Vayomer Elohim yehi rakia betor amayim. Vous voyez qu'on ne nous a toujours pas parlé de la création de l'eau, elle est là, c'est un point de départ. Rakia. Rakia, c'est donc une séparation, l'ikroa. C'est une séparation entre les eaux, c'est-à-dire entre Maïm Elyonim et Maïm Tartonim. Alors celui qui veut voir ça comme étant le bleu du ciel et le bleu de la mer, bon, c'est gentil, mais c'est évidemment pas ça. Yesh Maïm le Mala, Yesh Maïm le Mata. Si on a dit que Maïm c'était la Torah, c'est-à-dire qu'il y a une séparation entre la Torah chez Bichtav et la Torah chez Béalpé. Une qui vient d'en haut et une qui vient d'en bas. C'est Nora. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'unité. C'est quoi le Maïm ?
Les eaux.
Les eaux. Pourquoi tu dis les eaux et pas l'eau ?
Parce que c'est un pluriel.
Ben ouais. C'est un pluriel. Sauf qu'en français, on dit l'eau.
Ouais. Il n'y a pas eau.
Ah non, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas eau au singulier. Ça se dit Maïm. Mais vous avez raison de dire que c'est un pluriel. Bien sûr. Et c'est ce qui me fait me poser la question. Mais alors, attendez, ça veut dire quoi? Comment on dit de l'eau en, oui, non, en latin? Parce que je rappelle quand même que le français vient de « à quoi ». Et en anglais ? Et en allemand ? Bon, vous avez compris où je veux en venir ?
C'est tout
singulier. Non. C'est tous les mêmes mots. C'est juste qu'en français, je ne sais pas comment on est arrivé à l'eau. Enfin si, on a juste pris le « a » de « à quoi » et on l'a truc. Mais « maim », ça veut dire le questionnement. À quoi ? What ? Was ? Dans toutes les langues, ça veut dire quoi ? Maim, ze arbe ma.
Ah oui.
C'est de l'hébreu. Rabotai, c'est pas shoot. Vous avez dit que c'est du pluriel. Je suis d'accord avec vous. C'est le pluriel de quel mot ? Ma.
Ma.
Bah, c'est pas. J'ai pas été chercher midi à 14h. Hein. C'est pas loin. Hein. Non ? C'est pas. C'est un ridouche. Pourtant, c'est l'ulban, Rama Aleph. Hein. Vous le savez que ma, ça veut dire quoi ? Arbe ma, c'est maïm. Va nachnu ma, dira mon cher Rabbeinu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'eau, la Torah, elle nous amène à poser la question. Le problème, c'est quand cette Torah, elle est séparée. Zénora. Nachon, pour l'instant, il y a une séparation. Il faut réunir les eaux. Bezrat Hashem. Mais ça, quand on arrivera au déluge, peut-être dans quelques semaines, on y arrivera. Là, on comprendra ce que ça veut dire de réunir les eaux d'en haut et les eaux d'en bas. C'est-à-dire, en tout cas, Vayomer Elohim, Irakia, Betor Hamaim, Vayim Avdil, Ben Maim, Namaim. Vayas Elohim, et Arakia, Vayavdel, Ben Amaim, Asher Mitachat, Arakia, ou Ben Amaim, Asher Meal, Arakia, Vayichen. Vayicha Elohim, Arakia, Shamaim, Vayi Erev, Vayivoker, Yom Shtaim.
Yom
Shtaim
ou Yom
Sheni? Ah, merci. Merci. J'ai essayé de vous induire en erreur. Mais c'est ce qui aurait dû avoir marqué. Puisque dans le premier, il y avait marqué Yom Echad. Donc, qu'est-ce qui vient après Echad? Toujours Ulpan Rama Aleph. Hein? Nous, on reste au Rama Aleph. Hein? Non. Après Echad, Yesh. Shtaim. Viens, on compte. Echad, Shtaim, Shalosh. Arba même. Mais si on me dit Sheni, avant on doit dire quoi?
Rishon.
Rishon, Sheni, Shlishi, Revi. Alors quoi? Donc là vous comprenez que le deuxième jour, le Yom Sheni, ne fait pas suite au premier. Ce n'est absolument pas une suite chronologique ou pas chronologique. Il disait Manitou, à Yom HaSheni, pourquoi il s'appelle Sheni ? Parce qu'il est le deuxième qui est Echad. C'est à Yom HaSheni, chez où Echad. Et le troisième jour, c'est à Yom HaShlishi, chez où Echad. Ça veut dire que chaque jour, c'est le monde entier. Chaque jour de la création, c'est le monde entier qui est créé. Seulement, tu en dévoiles une autre facette. Une autre dimension. La première dimension que tu as dévoilée, c'est la lumière, l'organisation. Il y a un plan de construction. La deuxième dimension que tu dévoiles, c'est qu'il n'y a pas l'unité. Et il va y avoir une troisième dimension, une quatrième, une cinquième et une sixième dimension. Le 6, le Maharal nous expliquera que le 6, c'est ce qui permet de déterminer une réalité dans l'espace. Il faut 6 points pour montrer un endroit. C'est-à-dire, mais Kitso, on est en train de prendre conscience que la création, ce n'est pas du tout ce qu'on pensait, et que pour l'instant, on ne nous explique pas du tout ce qui se passe dans les étoiles, on s'en fiche. Là, on est en train de nous parler du dévoilement divin, par quel prisme il se dévoile, et qu'est-ce qu'il veut nous apprendre dans cette création pour répondre toujours à la même question, pourquoi j'ai créé le monde ? Eh bien, j'ai créé le monde, nous dit Dieu, pour quelque chose qu'il va falloir encore déterminer. Mais pour y arriver, je vais devoir utiliser Yom Echad, vers Yom Echad numéro 2, vers Yom Echad numéro 3, et ainsi de suite. Je voudrais juste qu'on s'arrête au troisième. Je voudrais quand même qu'on lise le troisième jour. Et vous verrez la semaine prochaine pourquoi je me suis arrêté d'Afka au troisième. Donc, Yom Er Elohim. ויאמר אלוהים יקבו המים מתחת השמיים אל מקום אחד ותראה היבשה Vayichen. À Maïm, prennent place à un endroit. C'est-à-dire qu'on peut quand même arriver à la Achdout. À l'unité. Makom Echad, à la Achdout. Vaterae, à Yabasha. Alors, c'est quoi la Yabasha ? Quelque chose qui est sec.
C'est la terre.
Oui, alors nous, on va dans notre imaginaire, on va dire c'est la terre. C'est-à-dire, il y avait de l'eau, il a rassemblé l'eau. C'est-à-dire, agave. Ceux qui ont envie, parce que c'est des scientifiques dans l'âme, et ils ont envie de faire des simulations par ordinateur, de voir qu'il y avait de l'eau, elle s'est retirée, ça laissait. D'accord, c'est pas de ça qu'on parle. Si ça te fait plaisir, monsieur le scientifique, fais-le. Mais c'est pas du tout de ça qu'on parle. C'est-à-dire, c'est Yavesh. Yavesh, c'est justement ce qui nous permet. Alors, je veux dire, Yavesh, c'est pas Ratou. Oui, nous, il fait meurtre. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Yavesha à Aretz ou Yavesha Nafshi. C'est-à-dire que c'est ce qui me permet de voir les choses. Lorsque Yavesha à Aretz, Nir'u Rashi Harim. C'est ce qu'on va lire dans la paracha de cette semaine.
Pour les habits.
Hein ?
Habits.
Pour les habits.
Yavesh.
Non, la vouche. C'est un lamed. C'est un yud. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est ce qui me permet. Maintenant que j'ai eu cette différence, il faut que je puisse voir les choses. Donc, Vaterae a Yabasha, Vayichen. Vayichen Elohim la Yabasha Eretz. Ou le mikve a Yamaim kara Yamim, Vayar Elohim Kitov. Vayomer Elohim, Tatche a Eretz. Donc, on a créé la terre. On va appeler ça comme ça va être plus facile pour nous. Mais on a compris ce que ça voulait dire profondément. On va l'appeler ça la terre. Et on nous dit, Vayomerim tatche a aretz deshe, terre fasse fleurir, enfin fasse pousser l'herbe. Esev mazria zera, des plantes qui portent en eux leurs semences. Ve'etz peri ose peri, et un arbre fruit qui fait des fruits. Mais c'est quoi un arbre? Etz zemilashon. Et ça, un conseil, la base de la réflexion. Les etzim qu'on va retrouver plus tard dans le Gan Eden, c'est pas des pommiers. C'est-à-dire, c'est etz, et ça. C'est pour ça que les Nevi'im, où est-ce qu'ils rendaient la justice? Tachat haetz. Pas seulement à cause de l'ombre. T'as qu'à te mettre dans une maison. C'est-à-dire, mais c'est autre chose.
C'est pour ça qu'on dit que l'homme est.
Ke'adam et sa sadeh, bien sûr. Bien sûr. Ok.
Et même Saint-Louis, il donnait ça à Saint-Louis.
Le roi, le bon roi Saint-Louis. D'ailleurs, vous savez pourquoi on l'a nommé Saint-Louis? Parce qu'il a tué plein de Juifs. Et qu'il a brûlé le Talmud sur la place centrale de Paris. Hein, bien sûr, sinon il ne serait pas saint. Hein, Louis IX. Et d'ailleurs, on dit qu'il est mort de la peste. Bon, ça c'est ce que les livres d'histoire disent. Moi, je connais la vérité.
Ah oui,
bien sûr.
Tu étais là.
Mais j'étais là. Mais bien sûr. Il est mort de la peste. Où ça ?
À Tunis, devant Tunis.
Il a été invité chez une famille tunisienne, il lui a fait la prière, il a pas supporté. C'est tout. C'est tout. C'est la peste, tout de suite. Ça a Mais qui tourne au bataille ? À Etz, ça et ça. Donc il doit faire Etz péri au C péri. Un arbre fruit qui fait des fruits. C'est-à-dire que l'arbre doit lui aussi être fruit. C'est-à-dire que dans le programme originel, il ne doit pas y avoir de séparation entre la cause et la conséquence, entre l'origine, la source, et ce qui sort de la source. Ça, c'est le projet. Aval mala asot, vatotse aaret deshe, esev mazria zera, lemino, ça c'est bon, et etz ose peri. Au lieu de faire un arbre fruit qui fait des fruits, elle a fait un arbre qui fait des fruits. Asher zarobo lomino vayar Elohim kitov. Il s'agit ici d'une avera. Dieu a dit, fait A, et la terre, elle a fait B. Donc ça laisse entendre que la terre, elle a... Elle a fauté. Donc ça veut dire que pour fauter, il faut avoir un libre arbitre. Nachon. On a dit, Eretz Milashon Ratson. Donc au départ... La terre est une ishiyut et non pas une yeshut. C'est quelqu'un, c'est pas quelque chose. C'est pas un plateau. Et donc il y a une faute. Pourquoi est-ce que Dieu il dit alors Vayar Elohim Kitov?
C'est bien.
Parce que c'est très bien. C'est très bien. Pourquoi?
Soit pas parfait.
C'est pour que, vas-y. Pour qu'on y arrive. Pour qu'on puisse se perfectionner. C'est-à-dire, on va y revenir là-dessus, bien évidemment. Vayar et Vayivoker, Yom Shelishi. Troisième fois qu'on a le Yom Echad. Et donc, une fois qu'on a dit ça, qu'on a évoqué les trois premiers jours de la création, eh bien, il ne nous reste plus qu'à évoquer les quatre suivants. Et je spoilerise la semaine prochaine en disant que les trois jours suivants, le 4, le 5 et le 6, sont exactement les mêmes que les 1, 2, 3. Sera créé le 4, 5, 6 égale exactement la même chose que le 1, 2, 3, avec une toute petite différence. On verra de quoi il s'agit la semaine prochaine. Oui. Vas-y.
Toujours c'est Ever et Voker. Pourquoi ça commence Ever?
Ah, très bonne question. Très très bonne question. On n'en a pas du tout parlé avant. Et tu fais bien de me le rappeler. J'ai oublié d'en parler. C'est une très bonne remarque. Pourquoi est-ce qu'on commence par Erev et ensuite par Boker? Eh bien, parce que d'après la tradition d'Israël, le monde a été créé Yesh Me'ayin. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien. Du moins, il y avait Dieu, mais je veux dire, il n'y avait pas d'existence. Et après, il y a eu l'existence. Et donc, pour le judaïsme, Aeader Kodem La Havaya. L'absence précède l'existence. Et donc, il y va de toute la création. C'est-à-dire, chaque élément de la création, il y a d'abord sa dimension où je n'arrive pas à la dévoiler pour pouvoir réussir à la dévoiler. Donc, toujours, ce sera d'abord Erev et ensuite seulement Boker. C'est la raison pour laquelle, dans le judaïsme, le jour commence la nuit et pour arriver au jour. Si on devait aller encore plus loin, alors peut-être que je le redirai quand on arrivera à Shabbat, au Yom Shabbat, d'après l'enseignement de nos maîtres de la Kabbalah, eh bien les six jours de la création sont à mettre en relation avec les 6000 ans d'action humaine. C'est-à-dire le monde de l'homme a 6000 ans, pas le monde physique, le monde dans lequel l'homme agit, il a 6000 ans. On y reviendra quand on parlera de l'homme. Mais nos maîtres de la Kabbalah nous enseignent que donc ces six jours de la création sont à mettre en relation avec ces 6000 ans. Ça veut dire que chaque jour, ce serait à mettre en relation avec 1000 ans. Ça ne veut pas dire que chaque jour de la création a duré 1000 ans. Bien évidemment que non. Mais à mettre en relation, comme il y a marqué dans Tehilim, qui elef shanim be'enecha, que yom et mol ki yav. C'est-à-dire, de notre point de vue, les 1000 années sont à mettre en relation avec chacune des journées de la création. Mais si on va jusqu'au bout du raisonnement, ça veut dire que dans chacun des 6 millénaires, il y a 500 ans de nuit, et 500 ans de jour. Erev Boker. C'est 12 heures la nuit. Et c'est 12 heures le jour. Donc, quand on y regarde de vraiment plus près, eh bien, on se rendra compte qu'effectivement, c'est ce qui se passe. Les grandes évolutions et les grands changements de l'humanité sont à chaque fois dans la deuxième moitié du millénaire. Et pour le comprendre de manière encore plus forte, on va prendre notre millénaire, celui qu'on connaît le mieux. C'est-à-dire, on est en 5782. Donc, on est dans la deuxième moitié de la deuxième moitié. On est dans le dernier quart. On est rentré dans le dernier quart. C'est-à-dire, donc ça veut dire que le sixième millénaire a commencé quand? Bah, c'est pas compliqué. Il y a à peu près 782 ans. C'est-à-dire, c'est donc, au bas mot, on est au 14e siècle. C'est-à-dire, c'est le début de la Renaissance. Comme son nom l'indique, c'est la renaissance humaine. Il se passe un truc. Tout d'un coup, l'homme se remet à produire. Intéressant. Sauf que, non. Il y a d'abord une période où c'est une production... Hein, et puis, au moment de 500 ans après, donc il y a pour nous 200 à peu près 80 ans, tout prend une accélération démesurée. Eh bien, posons-nous la question deux secondes. On est en 2021. Regardez ce qui se passe il y a un peu plus de 200 ans. Mais on ne peut pas comparer les années 1800 à ce qu'il y avait avant. Je veux dire, le bond qu'on a fait depuis la fin du 18e siècle jusqu'à aujourd'hui, c'est incomparable par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc on voit bien que dans les 500 dernières années du dernier millénaire, ça part dans tous les sens, il y a une création qui est incroyable. Et en fait, quand on regarde ça sur toute l'histoire, alors ça va être plus dur quand on remonte, parce qu'on a moins d'éléments, mais on voit que c'est dans les 500 années de la deuxième partie du millénaire que les choses bougent. Donc ça, c'est la dimension de d'abord Eader, et ensuite Avaya, d'abord l'absence, et ensuite l'existence. C'est Eader ? Ça ? À la semaine prochaine ? Ça, c'est un comment ?